Bien, nous allons prendre nos Bibles et regardons ensemble dans l'Évangile selon Jean de nouveau et le chapitre 8 à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. C'est notre texte. Et je voudrais vous parler du témoignage du Christ. On entend parler souvent des témoignages des hommes pour Christ. Mais la question est de savoir, qu'en est-il de Christ? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit de lui-même? Parce que c'est son témoignage qui est en fait l'instrument pour la conversion des âmes. Ce n'est pas notre témoignage. C'est ce que dit la Bible à son sujet, qui est utilisé par Dieu, par son esprit, pour convertir à Christ les pécheurs pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Donc, le témoignage du Christ. Et ici, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 12, nous lisons « Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, ici, nous ne savons pas exactement où situer ce discours du Seigneur Jésus, parce qu'il y avait entre ce que nous avons lu dans Jean chapitre 7, où Christ était à Jérusalem, c'est écrit dans le verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, c'était la fête des tabernacles à Jérusalem. Et c'était le dernier jour de la fête que Jésus, se tenant debout dans le verset 37, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc le Seigneur Jésus-Christ parlait en parabole. Il utilisait des termes là que les gens pouvaient facilement comprendre, que si quelqu'un a soif, il cherche de l'eau à boire, et que c'est Christ qui est cette eau. Et ici, et puis entre temps, nous voyons Christ qui se rend dans le chapitre 8 et le verset 1 à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, donc le jour après le dernier jour de la fête, nous voyons Christ en train de se rendre au temple, dans le verset 2, et continuer son enseignement. Et entre-temps, cette question de la femme adultère que nous avons vue la dernière fois. Donc ici, après avoir adressé cette situation de la femme, nous lisons dans le verset 12, Jésus leur parla de nouveau. Donc, il s'agit ici certainement de cette foule qui était autour de lui au temple, surtout dans le verset 20 de Jean 8. Nous lisons, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Et c'est écrit, personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Donc, c'est un moment où les gens cherchaient à s'attaquer au Seigneur Jésus et à sa personne. Mais rien dans tout cela ne l'empêchait à dire ce qu'il avait à dire parce qu'il est Dieu dans la chair. Et c'est lui qui dirige toutes choses selon sa volonté. Donc, Jésus leur parla de nouveau. Et les expressions qu'il utilise ici, comme en se référant comme l'eau, l'eau vive. Ici, il se rend ce témoignage d'être la lumière de la vie. Donc, nous allons considérer comment cela témoigne du Seigneur Jésus tout à l'heure. Mais voilà le contexte, que Christ est toujours à l'œuvre, il sert la volonté de son Père pendant le temps qu'il était sur cette terre et il témoignait de lui-même selon ce que le Père lui a donné cette gloire. Mais lorsqu'il a dit ce qu'il a dit dans le verset 12, toujours nous voyons l'opposition, les protagonistes, verset 13, là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Faut savoir que le Christ de la Bible n'est pas aimé des hommes religieux. Si aujourd'hui nous entendons parler d'un Jésus qui est populaire et que tout le monde aime, surtout pendant ce temps de l'année où les gens célèbrent leur Pâques, soi-disant les Pâques. Et comme un journaliste a dit que c'est au moins pendant cette année, ce temps de l'année que les chrétiens s'entendent, quelles que soient les divisions. Mais je dois dire que il n'y a rien dans la fête des Pâques qui est célébrée sous la bannière du christianisme que personnellement, moi, je peux trouver une unité avec les autres religions qui se disent chrétiens. Parce que le Jésus qui est célébré n'est pas celui de la Bible. Il faut dire qu'il y a une grande différence entre le Jésus que le monde célèbre, un Jésus populaire, et le Christ de la Bible. Je dois dire que si nous sommes fidèles en annonçant le Christ de la Bible, comme Christ lui-même se rendait témoignage, nous aurons toujours de l'opposition. Parce que le Christ de la Bible retient toute autorité. Le Christ de la Bible n'est autre que Dieu dans toute sa souveraineté. Il est vrai, les gens aujourd'hui disent, ah oui, c'est Dieu dans la chair, mais lorsqu'il parle de ce Dieu dans la chair, c'est un Dieu dans la chair qui n'a pas le pouvoir sur la volonté des hommes. Tout ce qu'il peut faire, c'est de vouloir sauver, et voilà, maintenant, ça dépend des hommes de prendre leurs décisions. Ça, c'est le Jésus populaire, mais ce n'est pas le Christ de la Bible. Le Christ de la Bible exerce son autorité sur tout homme pour sauver qui il veut et pour endurcir qui il veut. Et voilà pourquoi les gens se fâchent en entendant parler d'un tel Jésus. Et cette même réaction, nous voyons de la part des hommes religieux aujourd'hui, qui ne veulent pas accepter le témoignage du Christ tel qu'il est révélé dans les Écritures. Tu rends témoignage de toi-même, ils disent ici dans le verset 13. Ton témoignage n'est pas vrai. Combien de fois j'ai eu des gens me dire la même chose en leur annonçant le Christ de la Bible dans toute sa souveraineté, que son œuvre n'était pas une simple offre du salut, mais c'est son œuvre qui sauve. Et les gens disent, non, non, ça ce n'est pas le Christ que nous connaissons. Votre témoignage n'est pas vrai. Voilà comment ils réagissent. Mais rien n'empêche le Seigneur de faire face à ses opposants. Dans le verset 14, Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. » Et je dois dire la même chose. Peu importe ce que les hommes ont à dire à sujet du Seigneur Jésus, son témoignage reste vrai. Et voilà ce que nous devons alors annoncer à tout temps et à tout moment, peu importe la réaction des gens. Le témoignage du Christ est vrai. Il dit, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. C'était des gens religieux. C'était des gens qui pensaient qu'ils étaient enfants de Dieu. Pourtant, ils ne connaissaient pas le Christ. Quand il dit ici que vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Ils ne savaient pas que Christ est venu du ciel et ils ne savaient pas qu'il est venu donner sa vie en rançon pour le péché de ce peuple que le Père lui a donné. Alors il dit, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Il devait passer par la croix, la mort du Christ pour entrer de nouveau dans sa gloire auprès de son Père. Mais il fallait qu'il accomplisse d'abord sa mission. Rendre à son Père une obéissance parfaite et donner sa vie pour satisfaire à la justice de Dieu et ensuite, maintenant, rentrer de nouveau dans la gloire. Alors, il met son doigt maintenant sur le problème. Il dit, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Quand il dit là, je ne juge personne, il ne veut pas dire qu'il ne tranche pas entre les hommes, parce qu'il savait qui étaient ceux que le Père lui a donnés, et il savait qui étaient ceux qui étaient laissés à leur sens réprouvé. C'est un jugement qu'il rendait. Mais il dit dans le contexte, vous jugez selon la chair, selon l'apparence. Et il faut dire que le Seigneur Jésus, dans la chair, il n'y avait rien de visible en lui qui pouvait témoigner qu'il était effectivement Dieu. Il était un homme, il est venu en tant qu'homme. Et il ressemblait dans sa chair exactement comme les hommes qu'on voit aujourd'hui en Israël, parce qu'il est venu de cette lignée des Juifs. Il était fils de David, et son apparence était comme les autres de son jour. Il n'y avait pas une lumière qui brillait autour de lui pour dire aux gens qu'il était le fils de Dieu. Alors c'est pourquoi ces pharisiens, en le regardant, ne pouvaient pas croire ce qu'il disait, qu'il est venu du ciel, qu'il est l'eau dont il faut boire pour être sauvé, ou comme il a dit dans le verset 12, la lumière de la vie, ce sont des termes qui représentent Dieu et Dieu seul. Pourtant, c'était des termes que le Seigneur Jésus s'appliquait à lui-même. Donc, eux, ils jugeaient selon la chair, selon ce qu'ils voyaient. Mais il dit, quand il dit, je ne juge personne, il veut dire, je ne juge pas selon la chair. Ces hommes, avec toute leur moralité devant lui, prétendant être juste devant Dieu, ce n'est pas ça que Christ observait. Il connaissait leur cœur. Il savait leur pensée, comme il connaît nos cœurs, nos pensées. Et il juge selon la vérité. Il juge selon ce qui est et non pas ce qui apparaît être. Alors, vous jugez selon la chair, c'est toujours comme ça avec les hommes. C'est pourquoi il nous faut l'Esprit de Dieu, de nous ouvrir les yeux spirituels. Ça prend l'Esprit de Dieu. Comme Christ a dit à Nicodème, il dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir spirituellement, voir le royaume de Dieu. Alors, Christ juge selon la vérité. Et il dit dans le verset 16, et si je juge, mon jugement est vrai, par rapport au témoignage des hommes. Il nous faut le témoignage du Christ pour savoir qui est Dieu et comment Dieu sauve et par quel moyen il sauve. Tout cela, c'est en Jésus-Christ. Il dit, si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Donc, ils ont accusé Christ de rendre témoignage de lui-même, mais maintenant, il répond directement, non, je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Tout ce que le Seigneur Jésus est venu accomplir ou faire dans ce monde était selon la volonté de son Père. Lorsque nous contemplons le salut dans les Écritures, c'est le Père, depuis l'éternité, qui a choisi du monde déchu les pécheurs qu'il voulait sauver. Et depuis l'éternité, cela était donné à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour que, dans l'accomplissement des temps, le Seigneur Jésus vienne dans ce monde selon la volonté du Père, et qu'il vit cette vie de justice devant le Père à la place de ses pécheurs que le Père lui a donné. Et qu'il donne sa vie parce que le salaire du péché c'est la mort. Et satisfaire à la justice de son Père là à la croix. Tout ce que Christ faisait était en vue de son Père. Pour que le Père soit juste tout en justifiant, déclarant juste ses pécheurs qu'il a choisis depuis l'éternité. Et cela, Christ a accompli à la gloire de son Père. C'est pourquoi, le troisième jour, il a ressuscité des morts et il est monté au ciel où il est assis maintenant à la droite de la majesté divine, c'est-à-dire cette place d'honneur. C'est toujours à la droite, Dieu, et c'est là qu'il règne, c'est là qu'il est maintenant, où il intercède, la Bible dit, en faveur de ceux pour qui il est mort. Alors, il est en train de répondre à leur accusation qu'il rend témoignage de lui-même, il dit non. Je ne suis pas seul dans ce témoignage, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Le nom Emmanuel n'a jamais été utilisé par les hommes à l'égard du Christ, mais c'était le nom que le Père a donné à son Fils, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc quand il dit, le Père qui m'a envoyé est avec moi, Christ ne faisait rien à son sujet, son propre sujet, sans que le Père ne le dirige en toutes choses. Et c'est pourquoi il est le fidèle représentant. Parce que c'est en cela que nous avons tous fait faille. Si notre salut dépendait de notre justice ou bien de notre fidélité, on serait condamné. Mais c'est Christ seul qui a rendu cette parfaite justice dans son obéissance à son Père. Et c'est pourquoi il pouvait toujours dire, le Père est avec moi en tout ce qu'il faisait. Comme l'agneau dans l'Ancien Testament devait être observé pendant la Pâque et trouvé sans faute avant de l'immoler. C'est ainsi que Christ ici, en train de vivre cette vie devant son Père, il est lui-même l'agneau de Dieu, et le Père l'observe. Bien vrai, les ennemis de Christ l'observaient, et Satan l'observait, pour essayer de trouver en lui quelque faute, mais plus important encore, c'est que Dieu le Père l'observait en toutes choses. Et c'est pour ça qu'il vivait sa vie, pour rendre cette obéissance parfaite à Dieu, afin que Dieu soit juste en justifiant le peuple que le Père lui a donné. Quand on pose la question, quand est-ce que les pécheurs ont été justifiés devant Dieu. Beaucoup placent ça à la foi. Ils disent non, mais c'est quand on croit qu'alors nous sommes justifiés. Mais je dois dire non. c'est lorsque Christ s'est offert lui-même à son Père, et son Père était satisfait par sa vie et par sa mort. Alors, maintenant, les pécheurs que le Père, lui, a donnés depuis l'éternité, étaient justifiés. Dans Romains chapitre 4, et le verset 25, c'est précisé, lequel a été livré pour nos offenses, à cause de nos offenses, mais notez, et est ressuscité pour ou à cause de notre justification. Quand Christ est ressuscité des morts, il ne restait plus rien à accomplir pour le salut de son peuple. Et c'est Christ lui-même et son œuvre qui est la justification de son peuple devant le Père. Nous devons insister là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, les gens font de la foi comme ils font de la foi un sauveur. Ils disent que non, c'est la foi. Comme ils font du libre arbitre de l'homme, la volonté de l'homme, un sauveur. Non, ce n'est pas la volonté de l'homme, ni de la chair. Si nous croyons en Christ, c'est le fruit de son œuvre pour nous et en nous, c'est tout. Ce n'est pas que cette foi réside en nous et si on peut, comme on veut ajouter une flamme à un feu avec du souffle que maintenant nous pouvons souffler sur cette foi qui réside en nous, cachée peut-être, mais voilà, ça devient un plus grand feu. Non. Cette foi est le don de Dieu, mais c'est le résultat, c'est le fruit de l'œuvre de Christ. Et c'est la preuve, lorsqu'il y a quelqu'un qui croit véritablement en Christ tel qu'il est révélé ici dans les Écritures, c'est la preuve que Christ est mort pour lui. C'est la preuve qu'il a été justifié déjà devant Dieu par la mort de Christ. Mais la foi n'est pas le sauveur, c'est Christ qui est le sauveur. Alors, c'est important de comprendre. Il dit, le Père qui m'a envoyé est avec moi. Toujours. Celui qui connaît le Fils connaît le Père. On ne peut pas s'approcher du Père sans le Fils. Christ lui-même a dit cela. Il est la vie, la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir à Dieu, ou bien au Père, que par lui, par son autorité, mais aussi par sa puissance, en attirant de tels pécheurs à Dieu. Toute la gloire revient toujours à Christ. Et pour cela, il dit dans le verset 17, Christ qui est le témoignage de Dieu, se base toujours sur les Écritures. Il leur dit dans le verset 17, il est écrit dans votre loi. C'est intéressant qu'il utilise cela. Il n'a pas dit notre loi, comme s'il était égal à ceux à qui il parlait. Non, il est au-dessus d'eux. C'est lui-même qui a donné cette loi à Moïse, comme c'est lui-même qui a créé le monde. Et c'est lui-même qui donne l'interprétation de sa parole. Il dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Et donc, il dit dans le verset 18, je rends témoignage de moi-même. Donc, voilà un témoin. Parce que selon la loi, il faut deux témoins pour affirmer la vérité dans une situation que dans la société ou bien devant la justice. Donc, il dit, je rends témoignage de moi-même. Et cela, il peut faire en tant que juste, mais il dit aussi, et le Père qui m'a envoyé en témoignage de moi. Et nous allons voir ça prochainement dans le verset 19. Ils ont commencé à se moquer de nouveau. Il lui dit donc, où est ton Père? Pour eux, ils ne voyaient qu'un simple homme devant eux. Donc, pour lui d'appeler Dieu son Père, pour eux, c'était du blasphème, parce que cela signifie alors qu'il était le Fils de Dieu, et c'est ceux qui ne pouvaient pas accepter, tel était leur aveuglement. Mais je dois dire que nous serions tous dans le même état que ceux-là, si ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes tous nés dans ce monde aveugle et morts dans nos péchés spirituellement. Bien vrai, Christ a déjà payé la dette de son peuple à la croix, mais notre état dans lequel nous sommes nés dans ce monde, c'est que nous sommes morts-nés. Et il faut maintenant l'Esprit de Dieu de nous rendre à la vie pour que nous puissions voir qui est Christ et croire en lui tel qu'il se révèle dans les Écritures. Mais pour revenir sur ce texte concernant le témoignage du Christ, voilà quelques points à retenir. Premièrement, c'est que le témoignage de Christ est divin. Cela veut dire que c'est le témoignage de Dieu lui-même. Et nous voyons cela dans les illustrations qu'il donne de lui-même. Quand il dit dans le verset 12, « Je suis la lumière du monde. » Il faut savoir que pour les Juifs, s'identifier comme étant la lumière, se référer dans l'Ancien Testament où il y avait cette colonne de feu qui était au-dessus du camp d'Israël et qui dirigeait les enfants d'Israël durant leur pèlerinage dans le désert. Donc, d'entendre Christ dire « Je suis la lumière », il faut dire aussi à la fête des tabernacles, il y avait le chandelier qui était dans le temple, et selon la coutume des Juifs, ils plaçaient même un grand chandelier où tout le monde pouvait voir cette lumière. Et si c'était dans la place publique pour la fête, et puisque le verset 20 nous indique que Christ enseignait dans le temple où les gens se aller et accomplissaient leur activité, leur cérémonie, que Christ, voyant cette lumière, certainement pouvait utiliser ça comme un exemple de qui il était, la lumière. Nous ne pouvons pas créer la lumière, ça c'est Dieu qui crée la lumière, comme il a fait dans la création du monde. Il a dit et la lumière fut. Donc, Christ ici n'est pas en train de dire simplement qu'il donne la lumière, mais il est « Je suis la lumière ». Et la phrase qui pouvait peut-être tromper cela et les mêmes faire fâcher, c'est le fait qu'il dit « Je suis la lumière du monde ». Parce que là, maintenant, cela allait plus loin que simplement pour les Juifs. Et c'est un rappel que Christ n'est pas venu dans le monde simplement pour sauver des Juifs. Il faut savoir que les élus comprennent des pécheurs de toute race, de toute tribu du monde entier. Donc quand il dit ici « Je suis la lumière du monde », il ne veut pas dire qu'il est venu pour sauver chaque individu du monde. Voilà encore des gens aveugles, interprètent mal ces expressions. Il est en train de dire que si il est la lumière, c'est pour des pécheurs du monde entier et non pas simplement pour des Juifs. Mais jusqu'au moment où il plaît à Dieu de révéler Christ dans un pécheur, ces pécheurs restent dans les ténèbres. La lumière peut briller, mais il ne peut pas voir la lumière. C'est comme des aveugles physiquement. La lumière brille autour d'eux, mais ils ne voient pas la lumière. Peut-être qu'ils peuvent sentir un peu la chaleur, mais ils ne voient pas la lumière parce qu'ils sont aveugles. C'est pourquoi Christ dit ici, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » C'est-à-dire que celui qui suit le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit leur a déjà donné des yeux pour voir, des yeux spirituels pour contempler, et donc ne marche pas dans les ténèbres, ne marche pas. pas dans l'aveuglement dans lequel ils étaient nés dans ce monde. Telle est l'œuvre du Saint-Esprit pour révéler Christ au cœur. Je dois dire que pendant des années, j'étais dans cet aveuglement. Quoique j'avais la Bible, je lisais la Bible, je mémorisais les versets de la Bible, je suivais une formation qu'on appelle théologique. Mais tout cela, c'était dans l'aveuglement. Je marchais toujours dans les ténèbres. Marcher dans les ténèbres ne veut pas dire simplement aller vivre une vie de péché quelque part. Non, c'est marcher sans voir la lumière, de tâtonner dans l'aveuglement, comme beaucoup font dans la religion. Ils sont zélés, comme l'apôtre Paul lui-même a dit au sujet de ses frères juifs, qu'ils étaient zélés pour Dieu, mais sans l'intelligence. Et c'est écrit dans le verset 3 de Romains 10, « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. » Si vous voulez savoir ce qui condamne les hommes religieux aujourd'hui, c'est que ils suivent une voie de propre justice. Et c'est écrit ici, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Il n'y a qu'une seule justice de Dieu que Dieu accepte, et c'est celle de son Fils, c'est celle que son Fils a rendue à son Père, par sa vie d'obéissance et par sa mort. En dehors de ça, personne ne peut satisfaire à la justice de Dieu. Et le verset 4 dit « Car Christ est la fin de la loi, il est l'accomplissement de la loi pour la justification. » C'est-à-dire que c'est lorsqu'il a crié de haute voix de la croix, « Tout est accompli. » Ça, c'était la satisfaction de la justice de Dieu, mais c'est écrit pour tous ceux qui croient. D'autres continuent à chercher leur propre justice, mais pour ceux qui croient, pour ceux en qui Dieu a mis son esprit, Christ est la fin de la loi. Nous ne cherchons plus nous approcher de Dieu par nos œuvres, ou bien cherchant à obéir nous-mêmes à cette loi pour plaire à Dieu. Non, la satisfaction est en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alors, ça c'est important, le témoignage de Christ est divin. Lorsque Dieu nous donne des oreilles pour entendre et il nous donne des yeux pour voir et contempler sa personne, nous sommes en train de croire au témoignage de Dieu lui-même à travers le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le témoignage qui compte. Ce n'est pas le témoignage des hommes, mais de Christ lui-même. C'est pourquoi, en prêchant, nous devons toujours revenir à la Bible et poser la question, que dit les Écritures, que dit la Bible? Parce que les Écritures sont le témoignage de Christ, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Les hommes qui divisent la Bible en deux parties pour dire que, bon, l'Ancien Testament, ça c'est la loi, et le Nouveau Testament, ça c'est la grâce. Non. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, même à travers la loi, c'est une révélation de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il devait venir et accomplir et satisfaire pour que Dieu soit juste tout le temps. Souvent des pécheurs. Ah, quel témoignage, ce témoignage divin, divin. Et notez bien dans le verset 12, avant de continuer, la manière que c'est écrit, « Mais il aura la lumière de la vie. » Alors ça pose la question, est-ce que la vie sort de la lumière, ou bien c'est la lumière qui sort de la vie? Ici, c'est écrit « La lumière de la vie ». C'est afin de nous montrer que pour recevoir ce témoignage divin du Seigneur, il faut d'abord la vie que le Seigneur donne. Et puis ensuite, on voit maintenant la lumière. La lumière brille là où il y a la vie. C'est effectivement ce que nous avons vu en étudiant dans Jean chapitre 5, où dans le verset 22, Christ a dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est intéressant, quel que soit le lieu où nous trouvons le Seigneur en train de parler ou bien d'enseigner, il dit la même chose, il répète les mêmes choses. Et il dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Aujourd'hui, les gens veulent s'approcher de Dieu le Père d'une autre manière que venir à travers le Fils. Les gens disent, ah non, mais on peut adorer Dieu de notre manière. Non. Christ dit, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et puis, verset 24, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, donc, les oreilles pour entendre, et qui croit à celui qui m'a envoyé. Donc, il faut d'abord des oreilles pour entendre, et puis, on voit la croyance ensuite. Notez cet écrit, à la vie éternelle. Donc, ça explique clairement comment quelqu'un écoute la parole. Et comment quelqu'un croit à celui qui l'a envoyé, croit véritablement en Dieu, c'est parce qu'il a la vie éternelle. Cette vie éternelle lui a déjà été donnée. Et c'est pour ça que de tels ne viennent point en jugement. Et notez, mais il est passé déjà de la mort à la vie. Ce n'est pas le fait de croire qui nous fait passer maintenant de la mort à la vie. Non. Celui qui croit a déjà la vie éternelle et c'est pourquoi c'est une démonstration qu'il est déjà passé de la mort à la vie. C'est pourquoi ici dans Jean 8 verset 12, l'ordre de ces mots-là est très important. Il aura la lumière de la vie. Il aura cette lumière qui sort de la vie. C'est-à-dire où Christ donne cette vie par son esprit, alors la lumière brille. Cela, c'est à la gloire du Christ. Donc, le témoignage du Christ est un témoignage divin. Mais deuxièmement, dans les versets 13 et 14, nous voyons que le témoignage du Christ est selon la vérité. Nous pouvons nous fier au témoignage de Christ tel que nous voyons ici dans les Écritures. Et c'est pourquoi Christ leur dit, ils ont jugé Christ disant que tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Et dans la vie actuelle, on pouvait peut-être dire, oui, le simple fait que quelqu'un dit quelque chose ne veut pas dire que c'est vrai. Il faut que cela soit prouvé par le témoignage d'au moins deux ou trois personnes. Donc, ils ont accusé Christ de rendre témoignage de lui-même. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que même s'il n'y avait pas d'autres témoins, nous pouvons dire que le témoignage de Christ est vrai parce qu'il est la vérité. Pourtant, pour nous assurer de cela, et comme c'est écrit dans le verset 17, Christ ne met pas de côté la loi afin de se présenter maintenant aux pécheurs. Non, il est venu accomplir la loi. C'est pourquoi il accepte leur manière de raisonner pour dire que on ne peut pas juger la vérité basée sur un seul témoin. Donc, ils étaient en train de pousser Christ a déclaré où étaient ses témoins par son témoignage. Mais la réalité que Christ donne, c'est dans le verset 18, je rends témoignage de moi-même, et puisqu'il est la vérité, cela devait suffire, mais il ajoute, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Voilà les deux témoins. Nous avons le témoignage des Écritures. Donc, Christ n'a pas violé la loi, pour s'établir comme la vérité. Non, lui qui est la vérité. Et qui rend témoignage de lui-même. Cela devait suffire, mais en plus de cela, nous avons le témoignage du Père à travers lui. Mais le témoignage de Christ est toujours selon la vérité parce qu'il est la vérité. Dans le verset 14, il dit « Quoi que je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. » En nous confiant en Christ, nous sommes en train de nous confier à Dieu lui-même, Dieu dans la chair. Il sait « Je sais d'où je viens. » Si nous voulons savoir quelque chose de Dieu ou bien du ciel, c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ, c'est à travers son témoignage. Et puisque l'Esprit de grâce a déjà agi en moi, cela me suffit. Ce que je suis en train de vous annoncer à travers ces Écritures me suffit. Je n'ai pas besoin d'autres preuves, mais ceux-là, puisqu'ils étaient aveugles, ils cherchaient toujours d'autres preuves. Pourtant, le témoignage de Christ devait suffire. Voilà encore où je voudrais nous encourager en tant que prédicateurs, de ne pas imaginer face à l'opposition des gens que nous avons besoin de toujours augmenter nos preuves de ce que nous annonçons. Non, le témoignage de Christ seul suffit. Et ceux qui sont destinés à la condamnation ne croiront jamais, quel que soit le nombre de preuves que vous allez leur donner. Ils sont aveugles, ils sont endurcis. Et plus vous annoncez qui est Christ, plus ils s'opposent. Ça va toujours être comme ça. Mais je dois dire, continuons à annoncer le témoignage de Christ et nous fier uniquement sur ce qui est écrit de lui. Parce qu'il vient de Dieu, il dit, je sais d'où je suis venu. Et où je vais, nous savons comment il est retourné à son Père et a accompli ce salut parfait. Donc, ce témoignage seul suffit pour ceux qu'il est venu sauver parce qu'au moment prédestiné par Dieu, l'Esprit de la grâce maintenant révélera Christ dans leur cœur. Et ça va être à travers ce seul témoignage qu'ils vont venir à Christ. Christ a dit qu'il connaît ses brebis. Et il dit, elles me connaissent et elles me suivent. Ça, c'est l'évidence de l'œuvre de la grâce de Dieu. Donc, nous n'annonçons pas un message mixte. Nous n'essayons pas, par nos prédications, de convaincre les pécheurs qui ne seront jamais convaincus parce qu'ils sont destinés à la condamnation à cause de leur incrédulité. Nous cherchons ceux pour qui Christ est venu. Le seul moyen que Dieu a donné pour cela de venir, c'est la déclaration claire et nette du Christ et Christ crucifié, tel qu'il est révélé dans les Écritures, parce que son témoignage est vrai. Mais troisièmement, le témoignage de Christ n'est pas selon la chair. Dans le verset 15, il dit, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Nous ne présentons pas dans nos prédications, un Christ qui est visible. Nous n'avons pas besoin de symboles. Il y en a qui disent, ah, mais si Christ pouvait revenir aujourd'hui dans la chair, alors beaucoup de personnes allaient croire en lui. Non, ils n'ont même pas cru en lui lorsqu'il était devant eux dans la chair, dans le premier siècle. Nous ne jugeons pas le Christ selon la chair, ni son témoignage n'est pas seulement la chair, mais c'est une œuvre de l'Esprit qui révèle Christ en lui. Et puis, comme nous avons déjà vu, le témoignage de Christ est affirmé par deux ou trois témoins. À travers les Écritures, nous voyons Christ représenté sous différentes formes, symboles, types, prophéties, promesses. Mais il est l'accomplissement de tout cela. C'est ce qui me donne la joie de prêcher Christ partout. Parce que, peu importe le texte de la Bible, nous cherchons à l'annoncer, que ce soit en Genèse, que ce soit dans la loi de tout un homme, le livre de Nombre, Exode, que ce soit dans les prophètes, que ce soit dans le Nouveau Testament, c'est Christ qui est le sujet. Ces écritures rendent témoignage de lui. C'est pourquoi Christ, dans Jean chapitre 5 et le verset 39, disait aux pharisiens, aux hommes religieux, vous sondez les écritures. Mais il dit, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Le simple fait d'avoir les écritures et lire ces écritures, vous pensez que c'est là qui prouve que vous êtes enfant de Dieu. Mais il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et voilà le message que nous devons annoncer, le témoignage de Christ, parce que c'est par là que Dieu sauve les pécheurs, le témoignage de Christ. Alors que le Seigneur bénisse ce que nous venons d'entendre à sa seule gloire. Amen.